L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario de Jean-Pierre Junier. De Sainte-Croix. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. L'expérience que j'ai vécue avec toi m'oblige à le faire. Et puis, je veux t'aider. Je te remercie. Et comment vas-tu faire? Jean lui dit, je vais chercher sur Internet pour voir s'il n'y a pas des informations sur des personnes qui ont ce nom. Et que certainement je tomberai sur cette famille. Xavier lui dit, il faut aussi chercher l'histoire du tableau qui certainement t'aidera pour avoir des informations sur la famille. Le tableau représente le dernier de Sainte-Croix. Il faudra savoir qui est le peintre qui a peint ce tableau et connaître la vie de cet enfant. Le dernier de Sainte-Croix s'appelait Jean-Charles Emmanuel de Sainte-Croix, la maison de France. Jean lui dit, je vais voir tout ça, et dès que j'ai des informations, je te préviendrai. Et si Internet ne suffit pas, j'irai en chercher ailleurs. Peut-être que dans les mairies ou chez des particuliers. Xavier essaye de se rappeler ce que lui a dit la grand-tante, mais a des difficultés à s'en souvenir. Il se demande pourquoi elle ne veut pas lui dire quel est le secret du tableau. Sa fiancée vient le voir souvent. Il la reçoit au salon et elle voit qu'il n'est pas content de la voir parce qu'il ne parle que très peu. Elle lui demande « Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ?» Il lui répond « parce que je n'ai rien à dire. Elle lui dit, les larmes aux yeux, tu pourrais me dire que tu es heureux de me voir. Il ne lui dit rien. Elle pleure et boude. Il lui dit, il ne faut pas pleurer, je suis comme ça. Et cela ne veut pas dire que je n'ai pas du sentiment pour toi. Elle est un peu rassurée et lui parle de ses projets d'achat pour meubler leur appartement. Elle lui demande ce qu'il en pense. Il lui dit, je te fais confiance. Puis ils prennent le thé, tous les deux avec l'oncle, et font ceux qui sont heureux. Elle ne veut pas montrer qu'elle n'est pas heureuse. Elle dit à Xavier, je dis à mes parents que tout se passe bien avec toi. Jean cherche des informations sur la famille de Xavier et cherche à savoir ce que cachent tous ces mystères. Xavier veut l'aider, alors il va chez Jean regarder sur Internet. Malheureusement, il ne trouve aucun site qui parle de Sainte-Croix. Jean dit, si personne ne fait un site sur un sujet, il n'y a pas de site. Ils essayent aussi pour voir s'il n'y a pas quelque chose sur le tableau. Malheureusement, là non plus. Jean décide qu'il fasse des recherches sur les sciences parallèles parce que Xavier va d'un monde à l'autre. Il décide d'aller voir un hypnotiseur. Il en trouve un sur Internet qui est médecin et hypnotiseur. Il hypnotise les gens pour éviter qu'elles ne souffrent et pour leur enlever certaines hantises et anxiétés. Jean dit à Xavier, c'est mieux d'aller voir un hypnotiseur qui est médecin plutôt qu'une personne qui hypnotise sans but médical. C'est plus sérieux. Ils vont voir ce médecin qui se trouve dans un quartier chic de Paris, dans un bel immeuble du 19e siècle. C'est une infirmière qui les reçoit et les mène dans une salle d'attente Louis XV où se trouvent déjà plusieurs personnes. Après un petit moment, le médecin les reçoit à son bureau. Il a une blouse blanche et ressemble à un médecin. C'est un homme grand, fort, barbe et moustache blanche, l'air sympathique. Le bureau est meublé Louis XV avec un grand divan. Une fois les avoir fait asseoir devant le bureau, il leur demande « Que vous arrive-t-il ?» Xavier lui explique son histoire, même sa chirurgie esthétique et le passage d'un monde à l'autre sans que le temps bouge, etc. Il lui parle aussi que l'on veut absolument qu'il soit Jean-Charles-Emmanuel de Sainte-Croix de la Maison de France. Mais lui sait qu'il n'est pas cette personne et qu'il s'appelle Xavier Darmon. Il lui parle aussi de la grande-tante qui lui a dit qu'il n'est pas cette personne et qu'il n'y a eu qu'une personne de ce nom et qui est morte depuis fort longtemps. Il lui dit aussi qu'il fait des retours en arrière chez elle et qu'il la voit vivante alors qu'elle est morte, etc. Jean lui dit, moi aussi je suis parti de l'autre côté avec lui. Je ne croyais pas du tout à cette histoire et maintenant j'y crois étant donné que je suis parti avec lui de l'autre côté. Et il lui explique comment il a fait pour pouvoir partir avec Xavier. Le médecin réfléchit et leur dit, ce qui vous est arrivé me semble invraisemblable, et surnaturel. Tout ceci doit être résolu d'une façon tout à fait naturelle et normale. Il dit à Xavier, « Vous avez eu des hallucinations depuis votre accident de voiture et que c'est peut-être causé par les médicaments contre la douleur qu'ils vous ont donnés. Beaucoup de drogues font halluciner et délirer. Ces hallucinations et délires, vous les croyez réelles. » Il dit à Jean, « Vous avez été convaincu parce que votre ami vous a dit, par ce qui lui arrive, parce que votre ami parle d'une façon convaincante et que certainement vous avez un penchant pour lui. Et comme vous désirez fortement votre ami, vous avez profité de ce qu'il vous a dit, de lui proposer de vous unir à lui. Votre ami a accepté, car il veut absolument que son ami, c'est-à-dire vous, sache qu'il dit la vérité. Alors que vous, vous êtes punis. Vous avez tous les deux déliré. Ce délire a été causé par le plaisir que vous avez eu ensemble. » Les deux jeunes gens l'ont laissé parler. Et Xavier lui dit, « Ce n'est pas ça du tout. Vous avez oublié toutes les énigmes qu'il y a dans cette histoire, comme par exemple le tableau, et pourquoi on veut me faire changer de personnalité, devenir de Sainte-Croix, etc. » Le médecin lui dit, « Cela fait partie de vos délires. » Xavier lui demande, « Il m'a dit que j'ai toujours mené à Lyon. Pourquoi suis-je enfermé ici dans une avec cette nouvelle identité? Qui suis-je ?» Le médecin lui demande, « Êtes-vous sûr d'avoir toujours vécu à Lyon ou avez-vous oublié que vous avez toujours vécu ici, à Paris, et sous le nom que l'on vous donne ?» Xavier demande au médecin, « Alors, que me conseillez-vous de faire? Quel traitement avez-vous? Allez-vous me donner pour que je puisse avoir une vie normale et que je puisse connaître la vérité ?» Le médecin réfléchit lui dit, « Je pourrais vous proposer de vous hypnotiser. Lorsque vous serez hypnotisé, cela vous permettra de voir au fond de vous-même qui vous êtes vraiment. Car l'hypnotise supprime toute contrainte. Vous pourrez voir ce qui s'est réellement passé et qui vous êtes. Ce qui vous arrive vraiment lorsque vous croyez passer d'un monde à l'autre. De voir pourquoi vous refusez votre personnalité et votre identité. Est-ce que vous voulez que je vous fasse des séances d'hypnotise? Ce n'est absolument pas dangereux, ni physiquement, ni psychologiquement. Et tout ce que vous direz resteront secrètes. Tout ce que vous direz durant les séances, personne ne le saura. Alors, Xavier réfléchit, se dit que pour lui, ça ne servirait à rien étant donné qu'il croit vraiment à ce qu'il a vécu et qu'il sait qui il est. Jean a entendu la discussion mais n'a rien dit. Il dit à Xavier, « Ce serait peut-être une bonne expérience pour toi de te faire hypnotiser. Ça pourrait peut-être marcher pour connaître certaines énigmes de ta vie et si ça ne marche pas, eh bien ma foi, ce ne serait pas bien grave. » Xavier lui dit, « Tu sais très bien que je dis la vérité puisque tu m'as accompagné de l'autre côté. » Jean lui dit, « Je sais que c'est la vérité, mais peut-être pour connaître certains mystères, ce serait une bonne chose pour savoir par exemple pourquoi on tient tellement à toi. Peut-être est-ce que tu te souviendrais de quelque chose qui te serait passé au temps de ton enfance qui fait que tu vis ces choses étranges. Xavier réfléchit. J'accepte d'avoir quelques séances d'hypnose. Le médecin demande à Jean. Est-ce que vous aussi, vous n'en voulez pas avoir quelques séances? Ça vous permettra d'accepter votre véritable nature. Jean rougit, lui dit, je ne suis pas ce que vous croyez que je suis. Et je n'ai pas besoin de séances, étant donné que les séances de Xavier serviront aussi pour moi. Xavier prend ses séances d'hypnose chez le médecin et cela n'aboutit à pas grand-chose. Tout ce dont il se souvient, il le savait déjà, comme il sait depuis toujours qu'il est de Lyon et qu'il s'appelle Xavier Darmon. Il est sûr aussi de tout ce qu'il a vécu. Le médecin ne comprend rien à ce que lui dit Xavier et pense qu'il est devenu fou ou lui se met à croire à ce que croit Xavier. Mais les séances continuent. En état d'hypnose, Xavier revit ce qu'il a déjà vécu, les retours en arrière, la grande tante, sa nouvelle identité, de Sainte-Croix qu'il a rencontré à Lyon, etc. Après ces séances, il se sent fatigué et assommeille. Mais cela ne lui apporte aucune solution à ses questions. Après ces séances, il raconte à Jean ce qu'il ressent et après, il lui dit « Ça ne sert pas à grand-chose. » Jean lui dit « L'hypnose, ce n'est pas la solution. » Pour connaître la vérité, en fait, nous savons tous les deux que ce que tu dis est la vérité. Mais ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi tu vis certaines choses et comment. Xavier lui dit, je suis heureux que tu me dises ça et ça prouve que tu me crois. Jean lui dit, je ne peux que te croire étant donné que j'ai vécu avec toi une expérience exceptionnelle. Xavier décide d'arrêter l'hypnose et de voir autre chose. Ils vont voir un voyant pour qu'il leur parle de l'avenir et du passé. Le voyant se trouve dans un immeuble cossu près des Champs-Élysées. Le lieu où il reçoit ses patients ressemble à un cabinet de médecin. C'est un homme grand, maigre, tête osseuse, le regard profond. Il est habillé en hindou. Le voyant ne comprend rien. Les cartes lui disent n'importe quoi. Les signes de la main de Xavier ne sont pas nets. Il soupire et lui dit « J'abandonne. C'est la première fois que j'ai une personne comme vous. Je ne sais pas ce que je vois. Qui sait si c'est l'avenir ou le passé, que ce soit dans les lignes de la main ou des cartes. Je ne vois pas qui vous êtes. » Ils vont voir un prêtre exorciste. Le prêtre les reçoit à la sacristie. C'est un homme grand, maigre, barbe et moustache blanche, habillé en soutane noire. Xavier lui explique ce qui lui arrive. Le prêtre lui dit « C'est le diable qui joue avec vous. Je vais vous exorciser. » Mais malheureusement, une puissance terrible l'en empêche. Chaque fois qu'il veut poser la main sur la tête de Xavier, quelque chose le pousse violemment en arrière. Et on a l'impression que Xavier est entouré de lumière. Jean assiste à tout ça, terrifié. Le prêtre arrête et dit, je ne peux rien faire. Vous n'êtes pas pris par le démon, car vous avez une lumière qui vous protège. Cette lumière semble être divine. On ne veut pas que vous soyez touché. Vous êtes protégé. Xavier lui demande, puisque je suis protégé, pourquoi m'arrive-t-il toutes ces choses que l'on m'enferme dans cette vie qui n'est pas la mienne? Le prêtre lui dit,
Dieu veut certainement que vous le viviez, ces choses, pour le servir, que vous êtes peut-être le bras de la justice divine. D'après ce que vous m'avez dit, les personnes qui vous entourent n'ont pas l'air d'être très honnêtes. Et puis peut-être que vous devez venger celui que vous remplacez, qui est de la Maison de France. Et en étant de la Maison de France, a été élu par Dieu.
Dieu veut peut-être que vous le vengiez en prenant la place de celui qui avait été élu pour une mission pour la France. Et certaines personnes veulent vous prendre d'une façon satanique pour vous empêcher de faire cette mission divine. Xavier lui demande, « Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ?» Le prêtre lui dit,
« Je ne peux rien faire pour vous. » Comme Dieu
vous protège. Jean dit au prêtre, j'ai accompagné Xavier dans l'autre monde, dans le monde d'où il vient, et je l'aide. Alors j'aimerais savoir quel rôle j'ai dans cette histoire. Le prêtre lui répond,
vous avez été choisi pour aider Xavier dans sa mission contre le démon.
Xavier demande à Jean, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Les personnes me disent des choses troubles et je ne comprends pas grand-chose. Entre l'hypnose et ce prêtre, les choses se compliquent. Ils décident pour le moment d'arrêter leurs recherches. Xavier, pour éviter de se marier, aimerait bien aller dans l'autre monde. Mais le monde d'où il vient, malheureusement, la chose ne le mène pas dans l'autre monde. Le mariage est retardé parce que les parents de la jeune fille sont morts dans l'accident de voiture. Gabriel est effondré. Xavier, avec son oncle et sa tante, vont la voir. Xavier est ému par le chagrin de la jeune fille et décide d'aller la voir souvent. L'enterrement a lieu. La gendarmerie et les experts ont dit que c'était un accident dû au verglas. L'oncle de Xavier dit à Gabriel, « Le mariage se fera une fois que le deuil sera terminé. » Xavier n'ose rien dire, étant donné que Gabriel est dans la peine. Passant devant le bureau de son oncle, qui est en train de téléphoner, il entend son oncle dire
« Comme ça, il aura cette fortune en plus une fois marié. Et puis, ils ne rechercheront plus à chercher à nous le prendre. Il voulait 50% et ce qu'il représente, sans compter les enfants qu'ils auront. et qui auront le même sang que lui. Allez, au revoir. Tout est bien qui finit bien. Il va très bien, pas de complications de son côté. À bientôt. Xavier, troublé, se retire. Il se dit que l'accident n'était pas un accident et que lui est prisonnier. Il dit à Jean, chez lui, ce qu'il a entendu et qu'il croit que les parents de Gabriel ont été tués. Il parle aussi de ce qu'ils ont dit sur lui et qu'il est bien prisonnier. Jean lui dit, « Tu as raison. » Xavier lui demande, « Que faut-il faire ?» Jean lui dit, « Tu es en danger ?» Ce qui t'arrive, ce sont eux qui le font. Xavier lui demande, « Comment font-ils pour qu'ils puissent aller dans l'autre monde, d'un monde à l'autre ?» Jean lui dit, « Je n'en sais rien, mais de toute façon je crois que ce sont eux qui te manipulent et vont d'un monde à l'autre. » Xavier fait celui qui ne sait rien et pour éviter les soupçons va rendre visite à Gabriel pour la soutenir dans sa peine. Il se dit aussi qu'elle est innocente et qu'il se sert d'elle mais qu'elle ne sait rien. Il se dit que d'après la communication téléphonique, les parents de Gabriel voulaient la marier avec lui pour pouvoir s'emparer de lui et d'une partie de ce qu'il représente. Pour cela, ils ont dû faire chanter l'oncle, et sûrement que l'oncle, pour éviter les soupçons, s'est senti obligé de le marier avec elle. Il se sent mal à l'aise. Il n'a qu'une seule envie, c'est de retourner à son ancienne vie, de tout faire pour y rester. Il se dit que peut-être que de Sainte-Croix lui dira enfin quelle est la chose qu'il possède et que l'on veut faire croire qu'il possède en le faisant passer pour de Sainte-Croix. Malheureusement, il ne retourne pas dans l'autre monde. Un après-midi, Xavier, en se promenant dans le quartier du Marais, voit dans la vitrine d'un antiquaire le tableau. Il croit le reconnaître. Surpris, ému, il décide d'entrer dans le magasin et d'avoir des informations sur ce tableau. Dans le magasin, qui n'est pas très grand, mais il est très encombré d'objets. Un homme d'une quarantaine d'années, de taille moyenne, un peu fort, avec des lunettes, habillé d'un costume usé gris, chemise blanche et d'une cravate noire. L'homme lui demande, « Vous désirez, monsieur ?» Xavier lui dit, « J'aimerais avoir des renseignements sur le tableau que j'ai vu dans la vitrine et qui représente un jeune garçon habillé en mousse. » L'antiquaire lui dit, « C'est un tableau qui a été peint au XIXe siècle par un peintre hollandais qui s'appelait Jean van Beem. C'est un tableau remarquable. » Xavier lui demande, «
Est-ce que vous savez qui est le garçon qui est peint ? Il lui dit, je ne sais pas, monsieur, mais que certainement, ce devait être le fils d'une personne fortunée. Xavier lui demande, j'aimerais voir, s'il vous plaît, le tableau. Bien sûr, monsieur. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Jean-Pierre Jugnet de Sainte-Croix, production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.